7h-9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner.
La question du jour en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara vient d'être élu président pour un troisième mandat. C'est en tout cas ce qu'ont confirmé hier les résultats de la commission électorale indépendante. Mais l'opposition refuse de reconnaître cette élection. Elle estime notamment que ce nouveau mandat est, je cite, inconstitutionnel et a annoncé former de son côté un gouvernement de transition, une situation sous tension. Bonjour Richard Banegas.
Bonjour Guillaume Erner.
Vous êtes professeur de sciences politiques à Sciences Po, chercheur au CERI. Alors tout ceci survient dans un contexte extrêmement tendu. L'élection s'est jouée sur fond de violence, d'appel au boycott des urnes par l'opposition. Hier, comme je l'ai dit, la commission électorale indépendante a annoncé la victoire d'Alassane Ouattara à plus de 94% des voix, avec une participation électorale à près de 54%. À ce stade, la présidence d'Alassane Ouattara est-elle acquise ?
Acquise, disons sur le papier, sur disons dans les chiffres officiels, oui, puisque de toute façon la CEI, le Conseil constitutionnel, la CEI a annoncé ses résultats, le Conseil constitutionnel devrait les valider, tout comme il a invalidé il y a quelques semaines de cela 40 candidatures sur 44 qui pouvaient éventuellement gêner, disons, le président Ouattara dans sa poursuite hégémonique. Sur le plan institutionnel, il y a assez peu de doutes que le président Ouattara va aller au bout de sa logique. Maintenant, effectivement, comme vous l'avez justement rappelé, l'opposition ne reconnaît pas ces résultats qui ont été acquis effectivement dans une situation compliquée où la candidature même d'Alassane Ouattara a été contestée au titre d'un troisième mandat qui est contraire à la Constitution. Donc on est dans une situation de blocage total pour l'instant, qui rappelle d'ailleurs, il faut s'en souvenir, la situation de 2010, où c'était à l'époque Alassane Ouattara qui s'était présenté contre Laurent Gbagbo et qui avait effectivement mis en place un gouvernement de transition, enfin un gouvernement parallèle qui avait finalement remporté le succès que l'on sait grâce au soutien de la rébellion qu'il avait rejoint. Aujourd'hui, on est dans une situation évidemment extrêmement différente puisque l'opposition effectivement a lancé cette idée d'un gouvernement parallèle, sauf que, et c'est une énorme différence, elle n'a pas d'armée derrière elle.
Mais alors si on prend par exemple le canard enchaîné du jour, le scrutin semble entaché d'un grand nombre d'irrégularités. Alors par exemple pour le département du Sénématiali, eh bien il y aurait 26 706 inscrits et 29 378 votants, ce qui est une forme d'outrage à l'arithmétique. Richard Banegas, est-ce qu'il y a beaucoup de résultats de ce type ?
Oui, il semble y en avoir de nombreux. Alors cet exemple-là a fait effectivement le tour des réseaux sociaux pour montrer combien effectivement ce décompte était fort rigoureux. Il semble effectivement d'autres cas de figure aient été relevés, mais surtout effectivement, il faut le préciser, de nombreux bureaux de vote n'ont pu ouvrir ou ont été détruits lors de ce boycott actif qui a été décrété par l'opposition. Et donc le taux de participation qui est annoncé par la CEI aujourd'hui de 54%, ouais, est assez peu vraisemblable si l'on compare par exemple au taux de participation, je crois, de 52% si mes souvenirs sont bons, qui avait été atteint en 2015 alors qu'il n'y avait pas de boycott à ce moment-là. Donc on est effectivement face à des chiffres extrêmement farfelus qui ont été d'ailleurs dénoncés à bas bruit, pourrait-on dire, par certaines observations internationales, en particulier l'Union européenne hier.
Et oui, ils ont été dénoncés, semble-t-il, à raison. Du coup, vous l'évoquiez, hein, c'est vraiment le spectre de l'élection présidentielle de 2010, avec de nombreuses violences, près de 3000 morts. Est-ce qu'on est dans une situation qui pourrait, hélas, être comparable ?
Alors je le disais, la situation, enfin l'opposition a cherché en quelque sorte à rendre, je dirais, à Ouattara la monnaie de sa pièce, puisque à l'époque c'est lui qui avait joué cette carte effectivement d'un gouvernement parallèle, mais la situation était radicalement différente. Il s'était présenté à l'élection, il avait remporté une majorité de voix, et c'est le sortant qui refusait d'admettre le résultat. Là cette fois, l'opposition a appelé au boycott actif, mais dans une stratégie un peu brouillonne, eh bien ils se se sont quand même présentés à l'élection. Fingesson et Bédier figuraient sur les bulletins de vote. Mais ce boycott actif, il a effectivement conduit à de nombreuses violences dans le pays, notamment dans les fiefs du sud-est de Paris, Colombélier en particulier, mais aussi à Dabou, pas très loin d'Abidjan. Donc de nombreux morts, malheureusement, sont à déplorer. Ce que je crains, c'est que la situation ne dégénère, notamment en milieu rural ou sur fond de conflits fonciers en particulier. Vous en avez parlé sur votre antenne il y a deux jours, je crois. Eh bien, les violences puissent se reprendre sur un mode, comment dire, ivoiritaire et xénophobe, du tout sauf Ouattara, et qui a déjà été, il y a de nombreuses années déjà de cela, la ferment de la crise. Et il est assez probable, malheureusement, que ce registre-là soit relancé, faute d'avoir d'autres, leviers à actionner par les partisans d'Henri Conan-Bédié.
Quel est le bilan politique d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, Richard Manegas?
Alors, bilan politique, il est difficile à établir. On le voit aujourd'hui, malheureusement, avec l'instabilité que l'on observe sous nos yeux. Le pari d'Alassane Ouattara, au sortir de la guerre, ça avait été de faire la paix par la croissance, et ceci a relativement réussi, en tout cas sur le plan des chiffres macroéconomiques. La croissance est revenue en Côte d'Ivoire, les réalisations, notamment en termes d'infrastructures, sont assez impressionnantes, les investisseurs sont revenus, et le pays, en quelque sorte, a été remis sur les rails, disons, de ce qu'il fut à l'époque. Sauf que cette croissance, eh bien, elle est restée, en quelque sorte, extrêmement inégalitaire, a produit même de nouvelles frustrations très très fortes dans le pays, car l'émergence, comme on l'appelle, a aussi produit de l'énervance, comme on dit dans les quartiers populaires d'Abidjan, où l'argent ne descend pas, comme l'on dit. Et donc, la situation économique a produit beaucoup de frustration, mais surtout sur le plan politique, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ça a été une victoire non partagée et qui s'est poursuivi dans une forme de quête hégémonique du pouvoir qui a souvent utilisé par exemple la justice comme un outil de domination politique, qui a systématiquement écarté ses rivaux, arrêté notamment les anciens responsables du FPI de Laurent Gbagbo, et donc ça a été quand même une paix des vainqueurs, si vous voulez, et très peu de choses ont été faites sur le plan notamment de la réconciliation nationale. Une commission avait été mise sur pied, mais elle a produit très très peu de résultats, et donc en fait le bilan politique, il est aussi dans cet entre-deux d'une croissance retrouvée et d'une hégémonie politique qui n'a jamais véritablement trouvé les voies d'une réconciliation nationale.
Pourquoi Alassane Ouattara s'est-il finalement présenté à cette élection, puisqu'il avait annoncé qu'il y renonçait, il disait vouloir laisser la place aux jeunes générations, et finalement il est à nouveau présent au centre de la scène politique ivoirienne?
Oui, c'est difficile à comprendre, effectivement. Chacun pensait, lorsqu'il a annoncé le retrait de sa candidature et une passation de pouvoir à Manougon Koulibaly, son premier ministre est très très proche conseiller pendant très longtemps, que eh bien pour la première fois la Côte d'Ivoire allait engager véritablement un processus démocratique avec une élection qui permettrait une alternance non seulement politique mais aussi générationnelle, car c'est de cela dont il s'agit évidemment derrière aussi cette élection. Il y a bien évidemment la question du troisième mandat qui est posée et qui est inconstitutionnelle, comme je le précisais tout à l'heure, et c'est une question qui n'est pas propre à la seule Côte d'Ivoire. Dans la Guinée voisine, vous le savez peut-être, eh bien, de très nombreuses violences ont eu lieu aussi ces derniers mois, liées précisément à ce non-respect des dispositions constitutionnelles par le président en place. Ça a été le cas aussi au Burkina Faso, au Sénégal, mais aussi en Afrique centrale. Donc c'est véritablement un enjeu continental que ce respect, ou ce non-respect plus exactement, des dispositions constitutionnelles relatives au nombre de mandats. Mais derrière cela, je le disais, derrière cet aspect constitutionnel, il y a aussi la question du renouvellement générationnel. La Côte d'Ivoire a connu depuis les débuts de la crise un renouvellement générationnel assez important, avec de nouvelles figures qui sont apparues à la faveur du conflit. Je pense évidemment à Guillaume Soro, le chef de la rébellion, mais aussi à Charles Blégoudé, de l'autre côté de la ligne de front, chef des jeunes patriotes qui soutenait Laurent Gbagbo. Et tous ces, disons, jeunes-là, qui sont arrivés par la force des armes ou de leur verbe, eh bien, ont été bloqués dans leur ascension par une sorte de gérontocratie qu'on appelle la corocratie en Côte d'Ivoire, en malinké, qui s'exerce avec beaucoup de force, notamment au sein des partis politiques, où le renouvellement a du mal à s'opérer. Je pense en particulier au moment des des élections législatives ou des élections locales où les commissions d'investiture, eh bien, systématiquement écartent les jeunes de la conquête du pouvoir. Aujourd'hui, c'est véritablement l'enjeu. Je note d'ailleurs que l'Union européenne a appelé hier à ce renouvellement générationnel. C'est la première fois qu'on le voit sous la plume des diplomates. Et donc, c'est ça qui est aussi en jeu derrière la crise actuelle.
Merci beaucoup, Richard Banegas. Je rappelle que vous êtes professeur de sciences politiques à Sciences Po Paris.